Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonances, votre émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine, conçue et réalisée par Béatrice Maché. Mon invité ce soir est la poète Frédéric Germanot, poète, poétesse, je ne sais pas quel mot exactement. Frédéric, merci et bonsoir. Merci de m'accorder cet entretien. Pour vous présenter, je dirais que vous êtes originaire de Montargis et que vous habitez Angers, capitale de ce beau département du Maine-et-Loire. Ce n'est un secret pour personne, vous êtes née en 1966 et il est dit que vous êtes marcheuse, cinéphile, lectrice invétérée, que vous écrivez à l'étage de votre maison face à une fenêtre qui ouvre sur un petit jardin en désordre et clos de murs d'ardoise. Vous êtes l'auteur d'une œuvre polymorphe, éditée chez divers éditeurs, dont La Clé à Molette, Isabelle Sauvage, Approche, Le Phare du Coussex, Le Réal Gare, etc. Ce qui fait, à votre crédit, une vingtaine d'ouvrages. Vous avez écrit des nouvelles, des romans, des récits et de la poésie, dont des livres d'artistes. Et on reviendra sur ces livres au cours de l'entretien. Mais vous êtes aussi plasticienne et vous animez des ateliers d'écriture. Vous êtes membre actif de l'association fondée par Jackie et Sirard qui a pour nom la MIEL, soit Maison Internationale des Écritures et des Littératures, ce qui, énuméré comme ça, donne l'impression d'une vie riche et bien remplie. Ma première question a trait à cette information glanée dans votre biographie. Vous avez pendant 30 ans exercé le métier de juriste. Alors pourquoi juriste et comment prend-on la décision de quitter une profession salariée pour aller vers une activité qui risque de vous entraîner dans une forme de précarité?
Bonsoir Béatrice, merci de m'accueillir. Alors juriste, c'est venu un petit peu par hasard après le lycée, où j'avais un seul intérêt qui est toujours le même, qui est la littérature, sauf que je ne savais pas ce que je pouvais faire comme profession avec cette passion. Et donc raisonnablement, je me suis orientée vers des études de droit. Donc j'ai fait 5 ans de droit et je suis devenue juriste en entreprise. Donc j'ai exercé ce métier pendant à peu près 25 ans. J'ai commencé à écrire assez tardivement en fait, en tout cas à montrer mes textes assez tardivement, donc autour de 40-45 ans on va dire, donc parallèlement à mon métier de juriste. Et quand j'ai vu la place que ça prenait, j'ai commencé par demander un temps partiel à l'entreprise, puis un congé sabbatique qui s'est transformé en congé définitif puisque j'ai quitté l'entreprise avec une rupture conventionnelle, donc avec un petit peu de confort financier quand même, mais je savais n'était pas éternel. En tout cas, cette année de transition m'a permis de poser le fait que c'était bien l'écriture qui m'animait et qui me faisait lever le matin. Et ça m'a aussi laissé le temps de constituer un petit réseau d'autres écrivains, d'éditeurs, de salons, de libraires, qui a fait que je démarrais pas de zéro quand même. Voilà, donc j'avais quand même une espèce de sécurité et en tout cas un démarrage d'activité professionnelle en tant qu'écrivaine.
Alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez originaire de Montargis, une ville nommée la Venise du Gâtinais. Maintenant vous vivez à Angers, vous n'avez donc jamais quitté la présence de l'eau, le loin, les canaux, jusqu'à ce fleuve imposant qu'est la Loire. Est-ce que les voies d'eau, comme le fleuve, représentent pour vous quelque chose de significatif ou de symbolique ?
Ouais, c'est vraiment une présence qui m'est importante, symboliquement, je sais pas, mais géographiquement et dans mon corps en fait. Cette nécessité de l'eau, alors peut-être plus, je suis plus attirée vers les petits cours d'eau, vers les rivières, les étangs, les petits lacs, on va dire, que par le fleuve lui-même qui est quand même plus imposant et plus impressionnant, mais cette présence de l'eau, elle m'est nécessaire pour marcher, pour penser, pour écrire. Pour peindre aussi, je pense. Donc oui, il y a quelque chose, un lien très fort à ça.
En 2019, paraissait aux éditions Le Réal Gare un livre intitulé « D'eau au soleil ». Et si je commence par ce livre, c'est qu'il fait référence à vos origines familiales. Vous plongez dans le passé de vos parents qui ont quitté l'Algérie 4 ans avant votre naissance. Et vous écrivez « Partir » comme dans la sculpture d'un gros bloc de matériaux informes, taillé, évidé, donné sens. Et vous dites aussi, ce n'est pas un travail scientifique ou historique que j'ai entrepris, mais une opération alchimique sur une matière rétive, travail littéraire indéniablement, mais qui ne traite sa matière qu'indirectement. Alors, opération alchimique, que comptiez-vous transmuter, Frédéric Germano ?
Alors, je crois qu'il y avait une matière qui était déposée en moi, dont pendant longtemps je n'ai pas voulu, qui était donc cette matière qu'on pourrait dire de colon, en fait, hein, puisque voilà, c'était quand même. Alors, c'est ma famille maternelle, hein, c'est pas du côté de mon père, mais c'est donc des gens qui ont participé à l'occupation de l'Algérie et qui, quand ils sont rentrés, sont restés avec beaucoup d'amertume. Et voilà, c'était des gens qui avaient la nostalgie de l'Algérie française. Donc c'était pas forcément des choses que moi j'avais envie d'entendre. Néanmoins, ça s'est quand même déposé, forcément. Il y avait quelque chose, même si j'avais fermé mes oreilles, il y a quand même des choses qui se sont déposées en moi. Et à un moment donné, il m'a semblé important de sortir ça et de travailler là-dessus, en fait. C'était cette matière-là, donc je savais pas forcément ce que j'allais faire, mais en tout cas pas la laisser à cet état noir, on peut dire, enfin voilà, ce premier état en tout cas, qui était assez négatif. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais pas forcément en interrogeant les principaux intéressés. Ça s'est plutôt fait en périphérie pour arriver à une compréhension de ce qui s'était passé, une compréhension de ce qu'avaient pu vivre ces gens, quoi qu'on en dise, du malheur qu'ils ont vécu, et que ça devienne matière littéraire. Une fois que j'avais commencé à chercher, à creuser, à réfléchir à ça, il y avait besoin de poser des choses sur le papier. Et la réflexion, elle se fait en écrivant. Donc je pense que l'alchimie, elle s'est peut-être faite à cet endroit-là.
Alors je vais vous faire lire deux brefs extraits.
Je glane dans leur douleur. Je comble leur silence. Je ne porte pas la parole des survivants. Je prends la parole, la mienne, unique. Je désobéis au silence imposé tacitement.
Voilà pour le premier. Et le deuxième.
Nul n'attend ce texte. Aucun proche ne sait sur quoi je travaille. Je peux déchirer mes pages au fur et à mesure. Nul ne m'en tiendra rigueur. Je peux inventer, franchir cette limite. Nul ne sera en mesure de vérifier. Je n'ai promis aucune vérité à personne. Je ne fais que chercher, tâter le terrain, interroger. Je n'ai promis aucun début, aucune fin. Mon texte pourra n'être qu'une quête, un renoncement, une narration pleine d'accrocs, ou un prélude, l'amorce d'une histoire qui ne prendra jamais corps. Qui m'en voudra ?
Voilà, donc ce sont des extraits de ce livre intitulé « D'eau au soleil ». Alors, en quoi cet exode des rapatriés d'Algérie au-delà de l'histoire familiale douloureuse vous touche et vous importe ? Que cherchiez-vous à démêler dans cette histoire ? Et est-ce que vos antécédents de juriste peuvent avoir orienté les questions que vous vous êtes posées ?
Les antécédents de juriste, alors j'avais jamais pensé à ça, mais peut-être que oui, en fait. Peut-être qu'il y a une rigueur dans la quête qui tient à ma formation juridique. C'est vrai que j'ai cherché pas mal de textes aussi sur le statut des Français, sur le statut des rapatriés. Donc il y a en effet peut-être une part de ça. Après, ce qui m'a vraiment intéressée et ce qui, je pense, me touche encore au présent, c'est le déracinement, en fait. C'est à la fois le déracinement et comment est-ce qu'on s'enracine ou pas ailleurs une fois qu'on est arrivé. Eux se sont très peu enracinés. Par exemple, n'ont pas acheté quand ils sont arrivés en France, sont restés toujours locataires avec très peu de choses, très peu de meubles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que je porte toujours, en fait. C'est vraiment ce qui m'intéressait, en fait, comment on vit après avoir quitté une terre sur laquelle, en plus, on ne pourra pas retourner. Et d'ailleurs, ils n'y sont jamais retournés, ni les uns ni les autres.
Oui, il y a un trauma, ça c'est inévitable. Alors, vous avez déclaré, je cite, « L'écriture a contribué à m'enhardir, à me dépouiller du costume. Reste le goût du jeu. De l'autobiographie à la fiction, J'aime brouiller chemins et frontières. Alors, j'aimerais bien que vous vous expliquiez un peu sur ce goût du risque, le goût du jeu, le cache-cache entre fiction et autobiographie. Alors, déjà, comment ça se passe à la fois dans la tête et sous les doigts au moment d'écrire? Et est-ce que vous tenez une sorte de journal pour consigner ces souvenirs et ces réflexions?
Alors, je tiens une sorte de journal, mais qui n'est pas forcément sur l'écriture, encore qu'il y en a des traces, mais pas tant que ça. Ce goût du cache-cache, on va dire, je pense qu'il y a ce désir de dire des choses de moi, et cette réticence aussi. Alors ça devient pas forcément un jeu, mais moi ça l'est devenu, parce que dans l'écriture, quand on voit que ça fonctionne, il y a quelque chose d'assez jouissif, on va dire, de voir comment le lecteur peut se laisser prendre en fait à ça. Enfin voilà, il y a des petites anecdotes d'un livre où je parlais d'un chat, et quand j'ai été reçue en librairie, on m'a demandé mais comment vous avez fait garder votre chat. En fait, j'en ai pas. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez drôles. Après, c'est aussi le désir de pas se dévoiler complètement. Enfin voilà, il y a quand même une espèce de pudeur peut-être à pas être complètement transparente. Après, c'est quelque chose avec lequel je joue moins. Ça m'a vraiment tenu pendant des années sur les premiers livres. Avec l'écriture de la poésie, c'est moins présent. Et du coup, dans la prose, je l'ai un petit peu lâché, peut-être. Voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'intéresse peut-être un peu moins maintenant.
Et est-ce que quand vous écrivez, c'est un vous élargi, plus grand que vous-même, pour rencontrer une altérité ou une brotherhood, comme on dit en anglais, une fraternité, une sororité, il y a un peu de l'impersonnel ou jamais?
Je pense qu'il y a toujours un espoir de ça quand même. Même si j'écris pour moi, même si j'écris à la première personne du singulier, la plupart du temps, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre quand même. C'est que ça touche, comme moi en tant que lectrice en fait, même quand je lis des autobiographies ou des récits intimes, c'est ce qui me touche en fait, qui m'intéresse. Et quand j'écris, c'est la même chose, j'espère rencontrer le lecteur ou la lectrice. Donc, même si c'est pas forcément conscient au moment de l'écriture, et pas forcément une volonté de ça, en tout cas, quand le livre est fini, j'ai vraiment à cœur qu'il rencontre des gens.
On va offrir à nos auditeurs l'opportunité d'avoir une idée plus précise de votre style. Et j'aimerais que vous nous lisiez des extraits, ceux que vous choisirez, qu'il vous fait plaisir de partager, ou dans le livre intitulé « Dose au soleil » ou d'autres. Donc là, sur la table, vous en avez posé d'autres. Je vous laisse choisir des extraits et les lire.
Alors, je vais peut-être commencer par un livre de poèmes qui s'appelle « Intérieure nuit », qui a été publié au Phare du Coussex, justement. C'était mes premiers poèmes qui étaient publiés par Julien Bosque, qui m'a accueilli dans sa petite maison d'édition. Et il avait fait un tirage à part, avec une gravure de Jacquier Sirard. Et là, donc, j'ai ce tirage à part. Et je vais lire un poème. L'espace serré du carnet cousu, calé sous le halo de la lampe, je creuse la page d'un œil morne. La lumière me fuit. Tenter la nuit. J'entends grincer des portes qui n'existaient pas, une armoire, un placard, une casquette, vide. J'écris « grince » en poussant fort le stylo. Je pourrais le faire avec les dents. Nappe à pois bleu sur fond blanc, repas achevé, miettes et vaisselle sale, des bougies, c'est l'odeur de l'hiver. Pelure pourrie de mandarine dans la poubelle, le feuillage agité devant la petite maison, invisible. Les goras, les nuages, entre les deux un bout de mur, la pendule trotte derrière moi. Hennissement des trois chevaux du voisin, ils dorment debout, je veille, assise. Dehors éteint, et moi dedans. J'accueille la nuit dans mon ventre, tiédi par la flamme. « Et puis un livre d'artiste plus récent et plus léger aussi, que j'ai fait avec Jacquet Sirard, qui est publié à l'atelier de Villemorges, où il y a donc une double page et une encre assez joyeuse de Jacquet et Sirard.
Colorée.
Dans la prairie piquée de rouge et de bleu, l'épi porte une saison neuve, crée l'été. Un corps enjambe une fenêtre, vient tâter l'herbe du pied, voit l'épi, immobile et droit, en sa solitude de blé hors champ. Puis lorgne sa voisine, le peu qu'il sait des désordres féminins. Le cœur battant fait bouger les coquelicots, petite palpitation des papillons. Ferme les poings, ouvre bien les yeux. Plein soleil, une jambe nue. Qui vivent dans le feuillage? Bourdon, zonzon. Un doigt à l'ongle rose sur le tranchant d'une page. De l'autre côté, la suite. Une mule en équilibre au bout du pied. Le blanc de la cuisse fait piste d'atterrissage aux moustiques. Sueur, sel et sang dans la trompe. Ombre mobile sur le muscle. Lumière jaune-rouge. En souvenir, un bouton qu'elle grattera de l'ongle distraite.
Merci, merci beaucoup. Et ma première réaction, comme ça, à vous entendre, c'est l'observation fine, etc. Mais il y a comme un petit climat de... On ne sait pas très bien s'il faut s'émerveiller ou il y a de la menace derrière. En 2021, paraissait « Si par le ciel » aux éditions Blanc Volant. Un livre de poésie, puisque le texte est présenté en vers. Mais que je trouve très cohérent avec vos proses, dans le sens que vous avez une écriture concise, alors on vient de l'entendre, sans fioritures, on vient de l'entendre aussi. Les poèmes sont accompagnés par les photographies de Véronique Lanicia. Il faut aussi préciser que ce livre fut écrit en pensant au poète et éditeur disparu, Julien Bosque. Il dirigeait la maison d'édition, Le Phare du Coussex, tout en menant une activité de poète. Mais c'était un homme aux multiples talents qui avait obtenu un doctorat d'État en anthropologie sociale consacré à la sculpture Lobi, qui est un peuple vivant au Burkina Faso. Le musée du Quai Branly, alors en construction, lui avait demandé d'aménager un espace consacré à la sculpture sur bois de cette population. Quelle était votre relation avec Julien Bosque, Frédéric Germanot ?
Alors Julien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un marché de poésie, je pense pas loin d'ici à Rochefort-sur-Loire, si je me trompe pas. On s'est observé pendant pas mal de temps, même pas mal d'années même, je dirais, puisqu'on, voilà, je suis pas quelqu'un qui est très, qui va très facilement vers les gens, et puis Julien pouvait être assez réservé aussi. Et puis je l'ai lu, et sans que je le sache, il m'a lu aussi. Et on s'est retrouvés à Béhuard, je pense, à nouveau un été au marché de la poésie. Et là, il m'a dit, ben, si tu as des poèmes, je t'accueille au Phare du Coussex. Voilà, je trouvais ça très, très généreux de sa part. Enfin, j'avais pas écrit de poèmes. Bon, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et c'est comme ça que s'est fait le livre. Et puis, petit à petit, on a appris à se connaître. Julien est devenu un ami. Il est venu en résidence à Villevêque. J'estimais le travail tant d'éditeur que de poète. Et j'estimais beaucoup l'homme aussi. Enfin voilà, il avait des relations amicales très très fortes. C'est pour ça que quand il est décédé, j'avais vraiment besoin d'écrire en, pas forcément sur lui, mais en pensant à lui. Son décès était très brutal. Il nous a vraiment laissé sans explication. Et il y a eu la nécessité de faire quelque chose.
Dans ce livre, donc je rappelle le titre, « Si par le ciel ». Plusieurs extraits m'ont frappé, dont celui-ci. Des pelures de pommes au bord de l'assiette, ce détachement consenti du fruit à la peau. Un café, mains autour de la tasse, puis à plat sur la table, c'est tout. Ce mouvement qui associe des pelures de pommes détachées de la chair, et puis vos mains d'abord autour de la tasse, qui se détachent ensuite, elles aussi. Pour moi, c'était une image très puissante, très suggestive, et qui m'a entraînée dans une méditation sur ce procédé, ce chemin de détachement, comme une leçon de vie en accéléré. Et puis vient la conclusion lapidaire, c'est tout. Comme une leçon de sagesse à retenir, ou bien encore montrer en pleine lumière une forme de solitude et d'intensité, d'attention à cette solitude. A-t-on conscience, quand on écrit, que quelques vers bien choisis et posés sur la page vont projeter le lecteur dans cette introspection profonde? Et est-ce le but avoué?
Non, franchement, la conscience... Il y a quelque chose de très très instinctif dans l'écriture, et en particulier dans l'écriture poétique. Alors évidemment, il y a du travail dessus, c'est pas les premières versions, mais il y a des choses qui se déposent sans que je réfléchisse en fait à un quelconque but. Enfin, c'est plus de l'ordre de la nécessité, on va dire, que de la réflexion. Après, évidemment, quand j'ai retravaillé le texte, et je l'ai beaucoup beaucoup travaillé ce texte-là, sur ces vers-là, mais aussi pour faire une deuxième partie un peu plus ouverte et lumineuse, on sent, je pense, quand c'est juste, et que voilà, il faut laisser le texte en l'état, quand c'est écrit, c'est tout. Alors à tort ou à raison, mais là je vois que ça vous a touché, à tort ou à raison, mais il fallait que je le laisse là, il était bien, et c'était exactement ce que je voulais dire en fait. Je pense que c'est plus de cet ordre-là que de l'intention vraiment.
Alors je vais vous laisser lire deux autres extraits.
Un champ de pierraille, des freux, des pointes de blanc, blesse la terre grasse. Pas d'herbe, des cailloux. La souffrance serrait fort dans le poing. Ces heures où même une main est un espoir déçu. Pourtant, merle et merlette, vaque, fidèle à jamais. Dans une blessure, je pose mes lignes. Un linge gris sur un tas de linge gris. Un goût de grenier, un ray de poussière dans le soleil. Puis, courir vers un buisson de menthe, y enfouir sa tête et pleurer.
Vous avez dit que c'est le résultat aussi de beaucoup de travail et de réécriture. Comment on réécrit, comment on travaille?
Là, on peut peut-être parler du rôle de l'éditeur, là, qui est une éditrice en l'occurrence, des Blancs Volants, Hermine Robinet. En fait, j'étais en résidence à Sens, et elle m'avait présenté Véronique Lanicia, donc la photographe, et j'avais vu quelques-unes de ses photographies. Et il me semblait que ça correspondait bien à ce que j'avais envie d'écrire en pensant à Julien. Et j'avais fait donc une première série de poèmes que j'avais donc proposé à Hermine, qui nous avait dit à Véronique et moi, si vous voulez, Blanc Volant est prêt à vous accueillir dans la maison d'édition. Hermine a laissé reposer les choses assez longtemps, en fait, pour que ce qui était de l'ordre, je pense, d'une douleur un peu à fleur de peau, comme ça s'atténue, et que je puisse relire le texte de manière un peu plus apaisée. Et donc le travail s'est fait à partir de là, donc il s'était passé quand même quelques mois. Et elle m'a dit aussi cette chose après aussi plusieurs mois, donc il y a vraiment cette notion de temps qu'elle a laissé, et ça je suis vraiment reconnaissante. Elle m'a dit peut-être qu'il y aurait la place pour une deuxième partie un peu plus lumineuse maintenant. Et c'était vraiment le moment de me le dire, en fait. Et donc, j'ai écrit une deuxième série, qui est la deuxième partie, une deuxième série de poèmes. Et à partir de là, voilà, on a vraiment travaillé avec la photographe, avec l'éditrice, et il y a eu plusieurs versions du texte, mais après, on était plus dans des détails et des choses comme ça. Mais je veux vraiment souligner ce travail d'accompagnement, en fait, voilà, de l'éditrice, qui a été vraiment très important, en particulier sur ces poèmes-là.
Revenons au titre. Si par le ciel. On peut le comprendre comme un conditionnel, on peut aussi l'entendre comme une affirmation. Une sorte de « bien sûr que oui ». Alors était-ce intentionnel? Aimez-vous, recherchez-vous ces portes ouvertes aux interprétations multiples, aux polyphonies, et surtout dans les titres?
Oui, alors ça j'adore ça. Plus c'est ouvert et plus c'est polysémique et plus je trouve c'est intéressant. Si par le ciel, ça vient d'un vers de Shakespeare, dont j'ai oublié, et d'ailleurs je ne l'ai jamais retrouvé, mais j'en suis sûre, d'une pièce de Shakespeare. À la fois, c'est assez précis et imprécis pour évoquer mille choses. Dans mon idée, ça reste quand même plutôt un conditionnel, ça ouvre plein de possibles, en fait. C'était ça qui m'intéressait, mais que tout le monde s'en empare différemment, c'est encore mieux, en fait.
Ouais. On l'a entendu dans les extraits que vous avez lus, il y a 100 pathos décrites, donc à certains moments particuliers, une forme de difficulté à exister, sinon à vivre. Et on ressent aussi avec acuité le poids d'une solitude assumée, ou encore comme un état de survivance surprise, en témoigne ce « je me rends » qui conclut le poème « Bleu de mai ». Ces fragments, ces moments pris sur le vif, sont à mes yeux comme les pièces d'un tableau à assembler. D'ailleurs, on a parlé à votre égard d'usage du procédé de narration puzzle. Et cette réflexion pour en venir à votre livre intitulé « 90 motifs ». C'est un livre paru aux éditions La Clé à Molette. Et cette fois, les pièces du puzzle sont l'amant absent, l'histoire familiale, la création littéraire. Et cet ensemble de 30 textes de 3 paragraphes montre une femme qui interroge la relation amoureuse, le rapport à la création, mais aussi très discrètement la douloureuse question de la filiation et de la maternité. Alors, voici ce qu'on disait. L'excellent critique littéraire, poète, etc., Jean-Pascal Dubost, dans un article paru dans les cahiers du CIPM de Marseille en 2015. Alors, je cite Jean-Pascal Dubost. Le motif est la forme adoptée. 30 textes de 3 paragraphes chacun. Il est ce qui se répète, et se répète dans le présent ouvrage, la perception aiguë de soi dans le temps qui passe. Le motif forme épouse le motif pensée. Et le choix du chiffre 9 n'est probablement point anodin quand quelquefois est évoqué l'engendrement. C'est à un travail d'introspection que nous invite Frédéric Germano, où le sentiment de solitude glisse vers une pente méditative légèrement amère. La réalité est en rapport avec l'expérience de la pleine présence. La réalité est cette emprise sur le monde que je ne posséderai jamais. Donc ça, c'est une citation. Et donc, que Jean-Pascal Dubost reproduit dans sa critique. Bien que la narratrice se sente pleinement au monde par la sensation attentive aux choses, le texte fait entendre douceur autant que dureté à l'égard de soi, mais aussi volonté d'écriture comme réalité la plus palpable, sinon vivable pour l'auteur. Il y a rendez-vous avec l'acte d'écrire, qui semble apporter un semblant d'apaisement, d'acceptation de soi, voire il y a la présence des écrivains, de la littérature en présence l'art. Ce livre est émouvant parce que sans concession à l'égard de la réalité patiemment et finement revécue. Je ferme les guillemets et donc je rappelle que c'était la critique de Jean-Pascal Dubost. Alors, j'aimerais que vous parliez un petit peu de ce livre, de sa composition, de sa genèse.
Donc c'est un livre qui est paru il y a 10 ans maintenant. Donc c'est un petit peu loin pour moi. J'entends la chronique qu'en avait fait Jean-Pascal, comme si je la redécouvrais, et comme si je redécouvrais le texte pratiquement, en fait. Et c'est un texte que j'ai vraiment travaillé en entrelaçant donc de divers motifs. Ce sont donc des paragraphes assez courts, on est proche de la prose poétique, je pense, et il y a un fil narratif qui est très ténu, donc effectivement qui pose la question de l'histoire amoureuse jusqu'à la filiation ou pas. Comme c'était un de mes tout premiers textes et que je m'y dévoilais beaucoup, il n'était pas vraiment question de livrer ça de manière avec un début, un milieu, une fin, et de manière trop évidente. D'ailleurs, c'est un texte que j'ai très peu lu en public, donc j'ai pas énormément parlé. Alors, il y a eu vraiment de multiples interprétations qui m'ont vraiment intéressée, auxquelles je n'avais pas du tout pensé. On parlait de l'intention tout à l'heure, et par exemple, c'est du chiffre 9. Alors moi, j'avais rien vu du tout sur c'est du 9 mois. Comme quoi, il y a eu des discussions autour de la forme, etc. Mais je confirme qu'il y a quand même une grande part instinctive, en fait, quand j'écris. Évidemment, il y a eu, je mettrai des guillemets, mais une espèce de bricolage du texte pour que ça fasse tissage. C'est pas un texte militant, voilà ce que je voulais dire. Ça reste un texte qui, je pense, est plus poétique, en fait.
Je vous cite. Nous déjeunons en terrasse sous un soleil apaisé. Nous marchons au bord de l'étang. Nous nous croyons au Japon. Nous n'irons pas au Japon. Nous écoutons des poèmes sur le voyage couché. Quel corps sommes-nous quand nous lisons ? Alors voilà bien une question que des gens, dont moi, ne s'étaient encore jamais posée. Quel corps sommes-nous quand nous lisons ? Avez-vous trouvé une réponse, Frédéric Germano ?
Pas vraiment, mais ça m'a... C'est des questions qui me travaillent encore, en fait, parce que... Encore. Et le corps, il est tellement mobile, même quand il est immobile, que mon corps de lectrice, il y a 10 ans, c'est certainement pas mon corps de lectrice maintenant. Et c'est pas, évidemment, mon corps de marcheuse, et c'est pas mon corps de quelqu'un qui regarde un film. Et c'est aussi un corps qui vieillit maintenant. Enfin, voilà, tout ça est extrêmement mouvant. Tout ça se transforme. Je prends un exemple très concret, mais mon corps de lectrice pendant le Covid n'était pas du tout le même que mon corps de lectrice maintenant, en fait. Il y a quelque chose d'inquiet, enfin, voilà, tout l'environnement, même en lecture, elle joue aussi sur ce corps-là, le temps qui passe, mais aussi la société, mais aussi nos inquiétudes par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir une réponse. Il y a une réponse un jour et qui ne sera peut-être pas la même le lendemain, en fait.
Abordons à présent, si vous le voulez bien, 2 livres assez récents qui ont pour titre « Le bruit de la liberté », paru aux éditions La Clé à Molette, et « Momo Basta », paru aux éditions Isabelle Sauvage. Ces 2 livres sont habités par des figures réelles, celle de l'écrivain Pascal Quignard pour le premier, et du plasticien-performeur Momo Basta pour le second. Des personnages a priori qui n'ont rien à voir, sauf peut-être si on les regarde sous l'angle du silence et de la solitude. Pourquoi ces 2 figures vous ont-elles marqué ?
De manière très différente, alors Pascal Quignard, parce que c'est quelqu'un que je lis depuis longtemps et qui m'a accompagnée, et enfin, ça a été une découverte vraiment marquante pour moi, comme celle de Duras, voilà, des figures littéraires importantes en tant que lectrice, en tant qu'écrivaine. Et Pascal Quignard, c'est, je pense, un des plus grands auteurs français vivants.
Maintenant que Valère Novorina est mort, effectivement.
Il reste Pascal Quignard. Il a une œuvre très protéiforme, très novatrice. Enfin, voilà, il a fait plein de choses et j'ai une très grande admiration pour lui et beaucoup d'affection. Et à un moment donné, j'avais un peu envie de m'essayer au genre biographique, on va dire, mais lointainement. Je me suis demandé sur qui j'aurais envie d'écrire. Alors, Duras est venu spontanément, mais il y a tellement de choses écrites sur Duras que ça me semblait tout à fait impossible. Et Pascal Quignard, mais il y avait moins de choses. Et la forme après a dévié, parce que c'était pas question de faire un essai ni de faire une biographie, mais de partir plutôt un peu sur ses traces. Et ce qu'il lit, je relirai ça avec Momo Basta, qui est là par contre quelqu'un que j'ai rencontré sur un salon complètement par hasard. Momo Basta est un grand brûlé, donc on le repère très aisément où qu'il soit. Et qui m'a intéressée en ce sens qu'il avait une œuvre plastique et de performeur en lien avec son physique. Et là, Momo Basta rejoint le bruit de la liberté, c'est qu'il y a aussi une forme d'enquête, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, d'enquêter sur des gens, d'aller sur les lieux, d'interroger leurs proches, travailler sur leur œuvre, voilà. Donc les deux ont une forme d'enquête, un peu plus romanesque et l'autre peut-être moins, un peu plus frontale, on va dire. Ce sont 2 personnages qui comptent pour moi, oui.
Au tout début de Momo Basta, vous écrivez, mais je vais vous laisser le lire vous-même, cet extrait.
J'ai rencontré Maurice en 2013 ou 2014 à Mers-sur-Indre, 614 habitants, nichés non loin de la maison de Georges Sand et de sa mare au diable. Mers-sur-Indre organise chaque printemps une manifestation littéraire. Maurice, surnommé Momo, grand brûlé, déambule parmi les stands, dîne le soir avec les exposants et les auteurs, raconte des anecdotes que j'ai oubliées. Plus de lèvres, plus de mains, une peau glabre, brillante, tendue sur un sac d'os. Une gueule cassée au verbe haut. Je ne parle pas à Momo, mais j'écoute son ami François, l'un des organisateurs du salon, me délivrer quelques bribes de cette vie hors norme. Ce dont je me souviens, ou croit me souvenir, un accident domestique qui aurait mal tourné, cachant peut-être une tentative de suicide, un père collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, une dénonciation, mais dont je ne me rappelle plus l'objet, une peine de prison, une bassine d'huile ou d'essence, le père y met le feu, volontairement ou pas. Momo possède un paquet de lettres qu'il voudrait faire dactylographier, celles de sa famille au sortir de la guerre. Il cherche celui qui recueillera son histoire. Cela ne m'intéresse pas. Je fais partie de la catégorie des pilleurs. J'absorbe les vies, les restitue dans mes récits après rumination. Je ne demande rien à personne. Je glane. Je maquille les pièces volées, espérant les rendre méconnaissables, briques et brocs, mêlant matériaux biographiques et fictionnels. Du tout cuit, apporté sur un plateau, pas pour moi. Je ne pratique que le larcin.
Bon, voilà, déjà une pointe d'humour et un premier décor campé où l'on fait connaissance de loin avec Momo, diminutif de Maurice, et où l'on entre dans votre méthode d'écriture. Pratiquez le larcin en conscience. Alors, est-ce que ça vous laisse un goût de malaise, de remords, ou bien est-ce que cela vous procure une certaine jubilation ?
Alors, j'ai aucun remords. Je trouve ça plutôt... D'abord, c'est ma manière de faire et c'est ma manière d'être, on va dire. Je suis pas quelqu'un de frontal et pas quelqu'un qui pose les questions. Donc, disons que ça me correspond bien. Et puis, bon, on parlait de jeu tout à l'heure. Il y a un jeu aussi. Je l'ai fait avec Pascal Quignard. Je me souviens d'avoir campé devant sa maison en espérant qu'il sorte. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont, je pense à des livres d'enfance. Enfin, voilà, quelque chose d'un peu enfantin comme ça que je trouve assez amusant. Puis, ça permet aussi, je pense, de faire entrer la quête dans la narration même du livre, en fait. Le livre n'est pas que le résultat de mes recherches, mais intègre aussi tout les arpentages que j'ai pu faire, les recherches internet, les gens que j'ai interrogés autour de l'un comme de l'autre. Hein. Et Dos au Soleil, d'ailleurs, procédait de la même façon, en fait. Hein, non, pas de remords là-dessus, non.
Alors ce livre, Momo Basta, nous entraîne dans un tourbillon de réflexions, d'événements traumatiques, la guerre, la condition humaine et ses drames, les tragédies collectives et personnelles. Et à la fin, il y a cette question qui est celle de la légitimité même de l'écriture. N'est-il pas indécent de faire littérature avec un tel ensemble de douleurs ? Alors peut-on répondre à cette question, Frédéric Germano, et puisque vous avez écrit ce livre, n'avez-vous pas déjà implicitement répondu oui, mais on se souvient aussi des réflexions qui venaient après la Deuxième Guerre mondiale, Adorno et l'impossibilité d'écrire après la Shoah, etc.
Alors autant sur le livre sur Pascal Quignard, il n'y a pas eu de doute après, puis je l'ai rencontré, enfin ça s'est très bien passé. Sur Momo Basta, il reste en fait plein de questions sur effectivement est-ce que faire la littérature avec quelqu'un qui a été autant blessé, est-ce que ça se justifie ? En même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects dans le livre et dans la vie de Momo Basta lui-même, puisqu'il a quand même eu une vie qui a été passionnante. Il a créé, il a peint, il a fait 1000 métiers, il a eu une femme, il a eu des enfants, des petits-enfants. Enfin voilà, il n'y a pas non plus que l'aspect historique et douloureux dans le livre. Mais c'est resté une question qui est pas résolu. Est-ce que j'ai pas fait que remuer des douleurs qui n'en demandaient pas tant? Enfin voilà. En même temps, il y a toujours eu un lien avec Momo Basta. J'ai enquêté de manière pas forcément en l'interrogeant, mais je l'ai quand même rencontré plusieurs fois. Il savait ce que j'écrivais. Il a lu le manuscrit. Enfin voilà, c'était pas non plus un secret. Mais c'est vrai que ça fait quand même matière d'un livre qui pose question et qui me pose encore question. Ouais.
Je vais lire une phrase qui explique le titre du livre que nous allons évoquer à présent. Il y a un bruit de la liberté. Le bruit des pommes de pin qui se déchirent et qui s'ouvrent brusquement, sous les branches, dans l'ombre merveilleuse, et nous, sous le pin parasol, face à l'île de Capri, l'été à Ischia, sous le ciel bleu. Donc cette phrase est de Pascal Quignard. Et dans votre livre, Le bruit de la liberté, vous partez à travers le personnage d'Émilie, à la recherche des lieux réels ou imaginaires de la vie et de l'œuvre de Pascal Quignard, donc comme vous l'avez dit, une enquête, etc. Une façon de rendre hommage à un auteur important, sans écrire une thèse, et comme à votre habitude, en mêlant au récit un peu de votre vie, vos expériences, vos réflexions. Et si l'on en croit le titre, c'est de cette façon, en quittant tout pour suivre la trace d'un écrivain aimé, qu'Émile y trouve une forme de libération. Alors je serais tentée, moi, de penser que c'est le chemin tracé par l'écriture même qui vous offre la liberté, qui est le moyen de la libération. Je pense que vous l'avez déjà suggéré, mais Pascal Quignard a-t-il lu votre livre? Et si oui, qu'en a-t-il pensé?
Alors quand j'ai écrit le livre, j'avais beaucoup enquêté et je n'avais pas trouvé exactement le lieu où il habitait. Il a une maison à Sens, mais j'avais pas su exactement où elle était, bien que j'ai arpenté la rue 1000 fois. Et donc j'ai fini le manuscrit sans l'avoir rencontré. Et puis il se trouve que par personne interposée, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui avait écrit sur lui, qui s'appelle Chantal Lapeyre, qui est universitaire et qui le connaissait. Et donc je lui ai envoyé mon manuscrit à Paris, parce que là, pour le coup, il me semblait important qu'il le lise. Et puis j'ai reçu un message, un très beau message, qui disait qu'il avait beaucoup aimé le manuscrit et qui m'invitait à passer le voir à Paris. Du coup, je l'ai rencontré dans son appartement parisien et voilà, on a discuté un bon moment de choses et d'autres. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Alors j'étais pas très à l'aise, hein, pas se cacher, mais j'ai trouvé quelqu'un de très très affable avec de l'autodérision. Enfin voilà, ça a été un très bon moment.
Oui, oui, et c'est un très bon lecteur aussi. Hein, les lectures de Pascal Quignard, ça vaut la peine, allez-y, il y a quelque chose d'une intensité un peu comme je me souviens de celle de Bernard Noël lisant. Alors il y a une constante dans cette émission, Frédéric Germano, qui est de demander à mon invité de choisir un morceau de musique ou une chanson à faire entendre, si ce n'est à faire découvrir à nos auditeurs. Alors quelque chose d'inspirant, qui vous accompagne quand vous écrivez, etc. Quel serait votre choix et pourquoi?
Alors j'ai choisi un titre de Bess Gibbons dans son dernier album qui m'accompagne depuis peut-être 2 ans. Je l'écoute très très souvent. Et le titre c'est « Tell me who you are today ».
Cette Beth Gibbons, vous l'avez découverte par hasard ou bien qui est-elle?
C'était la chanteuse d'un groupe qui s'appelait Portishead.
Donc, nous allons écouter Tell Me Who You Are Today by Beth Gibbons. Vous venez d'entendre « Tell me who you are today » par Beth Gibbons, et c'était le choix musical de mon invité, écrivaine et plasticienne Frédéric Germano. Frédéric, est-ce que votre travail plastique poursuit, continue votre travail d'écriture, ou bien développez-vous une œuvre indépendante, chacune selon sa propre logique de création et d'exploration ?
J'ai longtemps cru que c'était vraiment indépendant, et puis depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça rejoint l'écriture. Depuis que je travaille à l'huile, je pense déjà, parce que le rythme est très différent de celui de l'acrylique, par sa lenteur de séchage. Il y a quelque chose qui s'approche de mon rythme d'écriture, et puis parce que je pense avoir trouvé aussi des motifs qui me semblent pas étrangers à ce que j'écris. Alors après, ce serait difficile de l'expliquer. J'essaye d'écrire là-dessus d'ailleurs. Ce sentiment en fait d'un lieu commun, plus sous forme poétique, ma recherche est plus par là. D'essayer de trouver là où ça se frotte, là où ça se touche, et que ce soit pas hétérogène en fait.
Est-ce que vous avez lu quelques carnets de plasticien, des notes d'atelier
J'ai pas mal lu et relu les notes de Bazaine, de Jean Bazaine. J'ai beaucoup suivi le travail de Joan Mitchell, qui est une peintre qui m'intéresse énormément. Elle, ma connaissance, n'a pas écrit, mais il y a eu quand même des choses qui ont été écrites sur elle. Et les notes de Lydie Arix aussi, qui sont très bien. J'aime bien les carnets de peintres.
Pour faire écho à la question posée de savoir quel corps on est quand on lit, quel corps on est quand on peint, Frédéric Germano ?
Il me semble qu'on a un corps très engagé. Déjà, je peins debout. J'aime peindre sur des assez grands formats. Et il y a quelque chose de physique dans la peinture que je ne trouve pas dans l'écriture, et pas dans la lecture non plus. Et puis, il y a un rapport au support aussi qui fait que le corps est presque entrant dans la toile, presque fondu dans son support en fait. Je peux passer des heures à peindre, je peux pas passer des heures à écrire par exemple. Il y a quelque chose de plus absorbant dans la peinture et peut-être de plus engageant pour le corps.
Alors pour avoir eu le privilège de regarder peindre certains amis, on a vraiment cette sensation du corps qui se colle complètement ou qui se mêle dans la toile, ou il y en a même qui se jettent sur la toile, je dirais. Et il y a un truc dans l'énergie là qui est vraiment... c'est assez fascinant, c'est vraiment fascinant. Maintenant, parlons plutôt de vos projets. Est-ce qu'il y a des livres à paraître, des expos en vue ?
Il y a eu pas mal d'expos en 2025, donc en 2026, a priori, il n'y a pas prévu. Il faut vraiment que je travaille à l'atelier. Par contre, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de livre publié. Et là, normalement, il devrait y en avoir deux, voire trois en 2026. Un récit qui s'appelle La douzième fée, qui est un récit encore assez autobiographique, qui est calé sur le conte de la Belle au bois dormant. Il y aura des poèmes au blanc volant qui vont sortir au mois de mars, là c'est fixé. Un recueil qui s'appelle Bien faire l'homme. Et puis quelque chose qui vient de se confirmer, donc qui est vraiment tout frais, un projet avec le photographe Michel Durigneux, qui serait publié chez une petite maison lyonnaise qui s'appelle Zinzinule. Voilà. Donc ça, je suis très heureuse déjà de travailler avec Michel, que je connais depuis longtemps, qui est un ami. Voilà, ça fait un moment qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et puis cette petite maison qui sort des très jolis livres. Donc ça serait pour fin d'année, octobre, novembre. Quoi.
Bravo, bravo, bravo. Alors on s'en va là vers la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, un sujet cher à votre cœur que je n'aurais pas abordé ?
Oui, peut-être ajouter quelque chose qui est important et de plus en plus important pour moi, qui est la part amicale qu'il peut y avoir dans le travail, tant dans des projets communs que dans des rencontres. On avait fait, je pense, par exemple, un petit livre avec les deux écrivaines, Françoise Ascal et Marceline Roux, qui s'appelait « Prendre le son sur la rivière ». Et le peintre Jacques Essirard nous avait accompagnés sur ce projet qui est On avait fait un livre d'artiste. C'est quelque chose qu'on aimerait prolonger. Il s'est passé quelques années. On va se retrouver normalement cet été. Et on s'est dit, mais se retrouver, oui, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire à nouveau quelque chose ensemble? On parlait à l'instant du projet avec Michel Durigneux aussi. J'ai peut-être moins envie de travailler seule que je l'ai fait jusqu'à présent. J'ai envie qu'il y ait des projets qui naissent avec des amis, qu'il y ait une part, que l'amitié se voit en fait. Cette part qui est importante à titre personnel, mais que ça se voit aussi dans les créations en fait. Et voilà, j'avais envie de dire un petit mot là-dessus.
C'est très important. Et puisque le livre est sur la table, vous allez nous en lire un extrait, Frédéric.
Prendre leçon sur la rivière, édité à l'atelier de Villemorges. Elles ont pour un temps laissé leurs compagnons, vivent seules, marchent le long des ruisseaux. L'une promène une libellule sur son chapeau de paille, l'autre rêve de nager dans la rivière, la troisième écrit dans un cahier noir, distraite par le vol des papillons. Leurs vêtements sont tachés de pollen, leur peau rosie au soleil, les chaussures jaunies de poudre de boutons d'or traversent la prairie gorgée d'eau. Elles s'arrêtent au lavoir et pensent aux femmes qui les ont précédées et qu'elles ne seront jamais, cuisent le pain dans le four à bois, montent à la cascade de l'oignon, furieuses, assourdissantes. Les voir passer, trio en pantalon, les voir franchir le pont à barrière rouge, contourner le lavoir débordant et le moulin abandonné, aller à la cabane verte, aux vitres brisées.
Voilà, dernier extrait donc de cette émission. Merci infiniment de m'avoir accueilli dans votre atelier, Frédéric Germano. Merci pour cet entretien et avec des propos riches à méditer. C'était D'assonance en dissonance, votre émission mensuelle consacrée à la poésie. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité. Encore une fois, je serai hors studio et au nord de la Loire. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.